RMC Running,
Amin Mohamed.
Bonjour à tous et bienvenue dans RMC Running, le podcast de RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Je suis toujours accompagné dans mon cher et tendre Johan Joran. Comment vas-tu?
Salut Amin, bonjour à tous. Ça va?
Ouais, nickel et toi?
Impeccable.
On a été relocalisé.
On est dans un nouveau décor,
ouais,
on est d'accord. Il a fallu qu'on déménage un peu.
Alors qu'est-ce qui s'est passé?
Il a poussé.
La météo, mon pote.
La météo, hein.
Eh oui. On nous a promis de la pluie, on en a eu.
Exactement, la météo s'est pas trompée et elles annoncent une petite galère pour nos coureurs de l'UTMB ce soir.
Exactement, il a fallu protéger nos caméras. Et attention, on remercie du coup l'hôtel La Folie Douce pour nous avoir accepté ici.
Au début, ils nous avaient mis dehors sur la terrasse dans un coin et là, on a un beau plateau, on est bien.
Merci à eux. On est vendredi, ici l'heure de l'enregistrement et donc c'est une grande journée ici à l'OCA UTMB Mont-Blanc avec deux des finales UTMB World Series, le départ de la CCC 100 km et le grand départ de l'épreuve emblématique, l'UTMB, les 100 miles qui part et forcément les athlètes vont avoir un peu mal aux jambes.
Oui, je pense, ouais, pas qu'aux jambes. Hein.
Ça va piquer, c'est donc la thématique du jour avec trois grands amis de la team RMC Running, Major Mouvement.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très très bien, je suis très content. Moi, dans cette ambiance chalet, j'attends à ce qu'on nous amène une petite raclette d'ici quelques secondes.
Et je trouve que le petit est déjà.
RMC, vous savez toujours recevoir vos invités.
C'est ça.
La raclette, le thé, le verre d'eau. Donc moi, je suis très très content d'être là.
Génialissime. À ta gauche, Sissi Cousseau, comment tu vas?
Salut, ben, ça va très bien aussi. Une semaine un peu récup pour moi et je profite d'être là pour voir les copains et puis profiter de cette belle ambiance.
C'est pas la réunion là, c'est pas la météo.
C'est pas la réunion, mais c'est bien, faut que ça change un petit peu.
Voilà,
magnifique. Et à ta gauche également, Aurélien Dunant-Palace, comment vas-tu?
Très bien aussi, même configuration que Sylvain, je suis ici plutôt en semaine vacances, entre guillemets, course de prévu. Donc voilà, on peut profiter un peu des petits événements, des soirées, des sorties dans le coin.
On le vit autrement que
exactement,
quand on
Alto Star. Tu connais très bien les lieux pour y avoir couru, notamment sur les 100 miles.
Ouais, l'UTMB, je l'ai pris le départ 4 fois. Et donc ouais, je connais bien. C'est bien de pouvoir retourner chacun sur les mêmes événements, ça tourne un petit peu. Ouais.
On va donc parler récupération avec vous. Merci de nous partager vos expériences. Retirez vos baskets, allongez-vous confortablement. C'est l'heure de parler avec RMC Running. On est parti. À ma gauche, le kiné préféré de vos kinés préférés. Major Mouvement, comment vas-tu?
Ça va très bien, je suis toujours content de vous retrouver parce que Johan, j'ai l'impression qu'il a un souci.
Pour moi,
il a un petit Alzheimer.
Dis-moi
parce qu'à chaque fois qu'il y a une grande épreuve de running, tu m'appelles. Et tu me dis, Greg, qu'est-ce qu'on doit conseiller aux gens?
Je
me
dis, mais c'est la récup.
À chaque fois, il me dit, je t'appelle pour les étirements, je t'appelle pour la récup. Et à chaque fois, je lui dis, on va parler des deux, mon vieux.
Ah, parce que la récup, ce n'est pas que le repos.
Exactement. Et alors, je ne vais pas spoiler tout le reste. Et alors, j'ai une info, je ne sais pas si vous la savez. Je ne suis pas le seul kiné autour de la table.
Ah, Aurélien?
Ouais.
Eh bien, c'est une belle info. Eh bien, écoute, je vais utiliser ton expérience. Parce qu'entre vous deux, il y a Sissi Cousseau qui revient tout juste d'un grand trail 100 miles, 4e place, juste la semaine dernière. Comment vont les jambes? T'es en pleine thématique.
Les jambes, elles vont très bien. Elles ont vraiment récupéré. Juste une petite douleur qui me manque kikine là, depuis quelques mois. Et je fais un peu comme si tout allait bien. Mais il faut que je creuse un peu ça au niveau de la hanche, sur la crête iliaque. Enfin, non, comment on appelle ce petit os?
Là, c'est la crête iliaque.
Ouais, bon, voilà.
Point anatomie. Voilà, parfait,
bien,
en direct.
Voilà, mais sinon, on en a bien récupéré. Après ces longues courses, c'est aussi le sommeil qui est problématique. Parce que tu fais une nuit blanche, parce que tu te lèves très tôt pour prendre le départ. Et puis, arrivé à un certain âge, c'est compliqué de ne pas beaucoup dormir. Quoi.
C'est vrai. Quatrième place au Grand Raid des Pyrénées. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cru voir qu'il y a eu une erreur de parcours à un moment donné.
Ouais, j'ai fait une grosse partie de la course deuxième et puis à 8 km de l'arrivée, j'ai raté une bifurque. Wow. Et je me suis fait une petite rallonge de peut-être 2 km, 1 km en montée. Et, j'ai fait demi-tour quand je m'en suis rendu compte et c'était trop. Enfin, il y avait déjà deux filles qui étaient passées, donc je fais 4. Mais c'est pas très grave. Le déroulement s'est bien passé. Ouais. Pour moi, le but, c'était de faire une belle sortie en vue de la Diag et puis pas me faire mal, parce que les Pyrénées, c'est quand même assez accidenté. C'est un terrain que je redoutais un petit peu. C'est des cailloux, c'est très sauvage. On n'a pas eu une super météo, donc voilà, l'objectif, c'était de terminer en tiers. J'ai terminé en tiers, puis j'ai fait un petit peu de rab, mais c'est pas très grave.
Ça arrive même au meilleur.
Ouais, bah après, c'était. En vrai, j'ai suivi un parcours balisé. Hein, donc,
oui, mais c'était sur une, pour une autre course, du coup.
Ouais, c'est ça. Ah ouais. Il y avait un petit micmac sur les balisages. Ils n'avaient pas mis de code couleur. Donc, ah ouais, j'ai suivi un balisage d'une autre course.
T'étais pas la seule.
Ouais. T'as voulu t'en rajouter, en fait.
On est plusieurs à s'être trompés. Beaucoup ont hésité. Et après, moi, j'étais toute seule. Quand t'es plusieurs, tu sais, tu. Poser la question à plusieurs, et après, il fallait descendre vers l'arrivée, donc j'étais un peu idiote de monter alors qu'il fallait descendre. Mais je me suis dit, tiens, ils ont fait une petite rallonge. Voilà, c'est pas très grave.
T'as pas la trace dans la montre ?
Je l'avais mise, mais pas enclenchée, parce que tu sais, ça prend de la batterie. Ouais. Et... Mais du coup, je l'ai enclenchée pour vérifier que j'étais bien perdue, effectivement. J'avoue que j'étais bien perdue. Ouais.
Est-ce que t'as un protocole de récupération juste après la course, pour les 24-48 heures notamment ?
Alors, c'est bien que je sois entourée de ces deux messieurs, parce que je ne suis pas très exemplaire en termes de récup et je ne sais jamais trop. Tu sais, moi, je me dis toujours quand reprendre, etc. Et souvent, c'est quand la tête a envie que je me dis que le corps, en général, a récupéré, parce que le corps et la tête, tout est lié. Et quand tu es fatigué, quand tu as encore mal, souvent, tu n'as pas envie.
Ouais.
Donc moi, je me laisse très souvent guider par mes envies et puis le moment où je me dis, allez... Si les jambes vont à peu près bien, mais après en termes de protocole de récup, je mets rien vraiment en place à part essayer de bien dormir, bien manger. C'est vrai qu'après des grosses courses comme ça, ouais, les basiques, j'ai envie de dire, bien manger, bien dormir, se réhydrater. Après, après les courses comme ça, t'as aussi envie de profiter un peu, l'apéro avec les copains, voilà. Donc il y a des choses que je fais pas très bien. Mais s'il y a des petites astuces, je les prends parce que je pense qu'il y a toujours des petits trucs à améliorer. Ouais. Quoi.
Aurélien, toi, tu as couru il y a un peu plus d'un mois aussi, 100 miles. On parlait de récupération, notamment avec le triptyque, sommeil, hydratation, nutrition. On est en plein dedans. Est-ce que tu confirmes les dires de Sissi et qu'est-ce que tu ferais ?
Ouais, alors c'était pas un 100 miles, c'était un format 100 miles UTMB, mais voilà, c'était un 110 km, donc c'est quand même plus court.
Et t'as fait le kilomètre vertical aussi il y a pas longtemps.
Ouais, les championnats de France.
Ça, c'est une séance dans la préparation. Pour certains, ce serait un enterrement à cercueil ouvert. Non, pour rien,
c'est clairement ça.
Ça fait que 2 km après.
Et ça monte comme ça.
2,5 km, je sais plus le pourcentage de. 2,5 km pour 1000 mètres, ouais, là, c'est vraiment très très raide. Ça fait une séance de même pas 40 minutes, mais vraiment, t'es à fond du début à la fin. Et ouais, après les courses, Sylvain, elle l'a dit, en fait, les deux priorités, c'est le sommeil et la nutrition. Et alors, la nutrition, c'est vrai que tout de suite après la course, souvent, quand tu as mangé pendant 20 heures, 24 heures de la boisson, des sodas, des gels, souvent, tout de suite après, tu n'es pas forcément faim et c'est compliqué de faire des vrais repas.
Okay.
Et maintenant, j'ai compris ce qui me convient et en discutant avec les gens, c'est quand même souvent le cas, c'est qu'il faut fractionner vraiment des petits repas. Et le corps, il a besoin de manger. Les jours d'après, on a un déficit calorique qui est présent pendant plusieurs jours. Et du coup, je mange vraiment souvent, mais des petits repas. Et voilà, quand j'ai faim, j'y vais, je mange et en plusieurs fois. Des choses caloriques quand même au début, il faut quand même vraiment manger tout ce qui est féculent, protéines pour vraiment recharger... l'énergie pour le corps et après bien sûr on va remettre pour le côté santé tout ce qui est fibres avec des légumes et des fruits, mais déjà la priorité c'est réhydrater si on est déshydraté et tout ce qui est glucides, protéines. Et là on peut s'aider des compléments et maintenant j'ai vraiment pris l'habitude après mes grosses séances surtout et après une course j'ai mon shaker avec alors j'aime bien la whey moi vraiment avec du lait végétal et c'est vraiment l'habitude que j'ai prise après mes grosses séances. Et après, voilà, il y a le côté plaisir quand même, comme elle l'a dit ici, après les courses, t'as envie de la pizza, t'as envie des...
moi je suis team gros burger après la course,
Mais c'est pas mauvais, de toute façon, après la course...
T'as le bide en vrac, donc autant te le terminer.
C'est foutu pour foutu, autant qu'il y ait de la saveur.
La pizza, franchement, ça passe toujours bien. Une bonne pizza à la base tomate, ça passe toujours très bien. Des fois, pas la pizza d'un coup, mais voilà, je la fractionne en deux repas. Mais c'est dormir. Vraiment, les jours d'après, souvent, il faut rattraper la nuit blanche qu'on a passée, des fois deux nuits pour les gens.
Est-ce qu'on arrive à dormir d'ailleurs après une course comme celle-ci ?
C'est pas là où on fait la meilleure nuit. Ouais. Non, la meilleure nuit, on la passe pas. Là, en général, c'est 6. Si j'arrive à dormir 7 heures, c'est déjà très bien. Après, faut compter sur les siestes. Puis il faut souvent presque une semaine pour se remettre dans le truc.
Tu te rappelles dans le film Seul au monde avec Tom Hanks, quand il est sur l'île déserte et qu'il revient avec tout le luxe dans l'hôtel, sa première nuit, il dort pas dans le lit.
Il dort par terre.
Et Aurélien, il dort jamais. Il dort son lit.
Là, c'était la Lettonica, je suis arrivé à 2h de l'après-midi. Et je suis rentré à la maison qui était juste à côté. Je me rappelle, je suis arrivé, j'avais la flemme de prendre la douche. Je me suis mis dans ma chaise longue et j'ai fait une sieste dans la,
dans la chaise longue.
Ouais, tout habillé encore, tout crassé. Je me suis réveillé, je suis allé prendre la douche et après voilà.
Major, la bonne bière après course, c'est prohibé?
Ah non, mais alors là, tu me lances directement sous le bus. Alors, non, je crois qu'il y a un truc quand même qu'il faut recentrer qui va aider vraiment nos auditeurs. C'est, je crois que c'est pas la même récup après une course, oui. Qui plus est, qui peut être ton objectif de l'année,
oui.
Qui
fin
plus
est,
si, voilà, qui, si t'es jamais t'es sportif professionnel ou élite, vraiment avec une grosse intention, et la récup de l'entraînement. Je pense que quelque part, celle après ton gros objectif, si tu t'es préparé pour l'UTMB, que c'est la deuxième fois de ta vie que tu le cours, ta récup kiffe là, c'est pas le sujet, profite de l'apéro, profite de l'ambiance, et tu rechargeras ton corps au moment où il le faudra. On parlera peut-être plus tard aussi sur de la très longue distance, sur de l'ultra-trail, sur la fatigue cognitive. Je trouve qu'on en parle peut-être pas suffisamment parce qu'on peut avoir des items de prévention en amont et aussi ne serait-ce que de savoir la reconnaître pour l'après. J'en parlerai après parce que c'est un sujet qui est hyper intéressant. Je crois que le vrai sujet, à mon sens, qui est le plus intéressant, c'est la récup pendant la préparation.
Bien sûr.
Je veux pas spoiler le truc.
L'idée, c'est de pouvoir aussi enchaîner les entraînements, faire gaffe à son protocole, pour arriver prêt le jour de la course. Et effectivement, après une course objectif, le prochain sera un peu plus lointain et donc on peut se laisser aller, refaire un pic de forme et remettre de l'intensité à l'entraînement.
Et je trouve que le nerf de la guerre, il est probablement juste là. C'est que après une course, il y a deux trucs que j'aime bien aussi différencier. C'est la sensation de fatigue, ce que les Américains appellent le soreness. C'est vraiment quand tu as la sensation de congestion dans les fibres musculaires, où tu sens que tu as des poteaux à la place des cuisses. Marcher, c'est difficile. S'allonger, c'est difficile. La montée, la descente des escaliers, c'est difficile. En fonction de ton niveau d'entraînement et de ce que tu es capable d'encaisser, tu arrives plus ou moins à le gérer. Et la vraie fatigue, ou celle qui nécessite vraiment de se pencher sur la récupération, qui n'est pas uniquement liée aux sensations du corps, qui va être vraiment sur les dérèglements alimentaires, sur les dérèglements de sommeil, sur les dérèglements, bah, j'y reviens un peu, cognitifs, où tu sens que tu peux être parfois un petit peu plus agacé,
irritable,
ouais, moins concentré.
Sur les nerfs,
Et c'est là où c'est intéressant justement de se dire, vous avez tout à fait raison tous les deux, la triade, on ne cesse de la répéter, mais c'est le sommeil pour régénérer le système nerveux central, donc le cerveau, les afférences neuromusculaires, ainsi de suite. Mais la nutrition, c'est absolument indispensable. Vous l'avez tous les deux très bien dit, refaire le stock en glycogène, refaire le stock en glucose, refaire le stock aussi en gras. Et ça, on peut avoir des compléments tout au long de l'année et pendant la course pour pouvoir faire en sorte d'avoir les stocks qu'il faut dans notre organisme.
Merci d'ailleurs NutriPure qui est partenaire de cet épisode sur la récupération. On parle beaucoup de récupération sur route, sur trail, quand on a un effort qui fait 15-20 heures sur ultra trail notamment. À quel point ça peut être important d'intensifier son effort là-dessus?
Non, bah, c'est très 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 important. Après, il faut différencier effectivement les préparations. Quand tu fais des préparations relativement lourdes de 10K, de semi ou de marathon, et une préparation d'ultra qui va te demander beaucoup plus d'heures d'effort, d'heures dehors et tout. Donc effectivement, déjà, ton effort en lui-même doit définir comment tu gères tout ça. Ouais.
Exactement. C'est finalement ton objectif qui guide ta récup. Et pas juste se fier à la sensation, et c'est ça que je trouve hyper intéressant.
Je parle au grand trailer, ultra trailer que vous êtes ici, Aurélien. Après une course, qu'est-ce qui est le plus abîmé? Sont les articulations, les muscles, les tendons, ou est-ce qu'on a le plus mal, entre guillemets?
Les trois.
Faut différencier aussi courbature et vraie douleur.
Exactement.
Mais à quoi on fait gaffe, justement?
Quand on est très bien préparé, je trouve, et qu'on a réussi l'objectif, on a pas mal énormément musculairement sur les formats 100 miles, ouais. Parce qu'on a été préparé. C'est une intensité qui est importante, mais qui est quand même modérée. Et voilà, je me fais plus souvent mal aux jambes sur un 50 km que sur un 160.
Ah, à l'intensité, pas mal.
J'ai jamais fait pour le coup un tour des géants, mais ceux qui font le tour des géants, ils disent encore plus qu'ils ont moins mal sur 360 que le format 160. Parce que l'intensité, elle est moins. Là, on a le plus mal. Les articulations, moi, je touche du bois, mais j'ai pas mal après la course.
C'est que t'es bien préparé.
Oui, je suis bien préparé. Je pense après, il y a un côté aussi un peu inné dans le format 100 miles. On voit des coureurs qui essayent et qui n'y arrivent pas, ils souffrent de plein de pathologies. Et que certains, ils ont rien du tout, quoi. Ça tire un petit peu, des fois un petit peu les tendons à droite, à gauche, mais les jours d'après, on fait rien, on laisse le temps passer, ça revient vite. C'est souvent quand même toute cette fatigue qu'on a accumulée. Ouais, la fatigue nerveuse. Ouais, exactement. La fatigue nerveuse, les jours d'après, moi, je suis un légume, hein, des fois. Oui. J'ai rien envie de faire. Il faut échanger la couche des petits et tout.
Surtout qu'ils ont 19 ans, donc ils commencent à se débattre, c'est plus difficile qu'avant.
Ouais, ouais, non, c'est vraiment cette fatigue-là qui est le plus dur à récupérer sous les deux premières semaines, je trouve.
Deux premières semaines, c'est énorme. Hein.
Ouais, deux premières semaines.
Nerveuse et mentale, mal. Ouais.
Ouais, ouais, ouais. Je pourrais aller faire un tour de vélo et tout, mais. Ouais, t'as pas de force.
Il faut que l'envie soit là.
Ouais, exactement. Du coup, je force vraiment pas les choses et je laisse le temps venir, je vois comment j'ai, enfin, Sylvain disait tout à l'heure, je fais vraiment sensation aussi. Si t'as envie, bah tu y vas, mais.
Pardon, excuse-moi de te couper. Est-ce que vous avez encore les sensations d'euphorie post-courte? Oh, je la refais ou pas?
Bien sûr, vas-y.
Avec les consonnes?
Ouais,
avec les voyelles. Avec tous les mots.
Rajoute un S, ça va.
Est-ce que vous êtes toujours content? Est-ce que vous avez toujours les sensations d'euphorie après vos courses, après les très longues distances?
D'euphorie, c'est-à-dire.
Tu sens ton corps littéralement comme si tu étais drogué, shooté. Ouais.
Un pic d'adrénaline.
Ouais, un pic d'adrénaline, ce qui fait que tu te sens vraiment heureux, tu te sens vraiment bien. Ou
sur la ligne d'arrivée?
Ouais, ou même
ça peut durer plusieurs jours.
Ça peut durer pour plusieurs jours quand même.
Ouais, si la course est bien passée, tu as l'euphorie du résultat.
Oui, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Quand c'est mal passé, c'est quand même. Non, pas trop, non.
Et toi, Cici?
Ouais, moi, pour rebondir sur le sujet, enfin, ça dépend comment la course se passe, en fait, ouais. Par rapport aux douleurs, si tu t'es mis vraiment dans le rouge, si y a eu des faits de course à un moment donné, je sais pas, tu t'as pas pu t'alimenter, et en fait, me concernant, il n'y a pas vraiment de règles. Je prends par exemple la diag que j'ai fait 5 fois, j'ai pas eu les mêmes douleurs post-diag à ma première, ma deuxième, ma troisième, mais pas parce que je me suis pas préparée pareil ou parce que j'étais préparée pareil, donc j'ai pas eu le sentiment d'être mal préparée, mais parce que le déroulement n'était pas le même. Et,
les conditions parfois, météo suffit... pas les mêmes, il y a tout.
Ouais,
tout
c'est ça,
différent.
Parfois il suffit qu'à un moment donné tu te tordes vraiment la cheville et ça déclenche tout ton corps en fait. Là par exemple, je disais j'avais mal à la hanche, en fait je me suis tordu la cheville plusieurs fois. Et sur l'ultra, en fait, sur un micro déplacement de cheville ou de genou, c'est tout le corps qui prend en
derrière,
fait.
Ouais.
Et comme c'est très long, très long, bah répéter sur des heures et des heures. Et je pense que c'est plus comment la course se passe. C'est pas tout à fait pareil à l'arrivée. Et du coup, c'est pas tout à fait pareil aussi en termes de récup. Mais moi, cette euphorie post-course, je l'ai jamais vraiment eue. Je l'ai plus au départ et pendant. Mais après, non, c'est plus l'inverse.
Le blues, tu te diras, c'est fini.
Tu retombes comme un soufflet.
Ouais, pouf, terminé.
T'as le corps qui fait mal. La tête fatiguée, donc c'est plus... moi, j'ai jamais trop ressenti ça.
Je peux rebondir sur un truc que Cici a dit, que j'ai trouvé hyper intéressant. Là, Cici, elle a parlé d'une douleur au niveau de la crête iliaque. Donc, pour que les gens s'imaginent, vous avez votre hanche, c'est 5 cm au-dessus, c'est le gros os du bassin. Et ça, elle nous le dit, ça part d'une cheville. On pourrait se dire, mais comment est-ce qu'une douleur de cheville peut remonter aussi haut? C'est drôle que tu sois là, Aurel, parce que la première fois que j'ai entendu parler d'un syndrome des trailers et des ultra-trailers, c'était la fracture du plateau du sacrum, qui est vraiment la jonction entre le bas du dos et le bassin. Et moi, normalement, les seules fractures que j'avais entendues comme ça, c'est dans les gros accidents de la route. Si on y pense, si vous avez un petit problématique de cheville, en l'occurrence, soit tu as pris un coup, soit une petite entorse, soit elle s'est un peu trop baladée, il va y avoir un phénomène de fatigue musculaire qui va se faire. Tu vas réussir à compenser sur les muscles qui sont présents, donc tout est fibulaire, tout ton tendon d'Achille et ainsi de suite, tes muscles propres du pied, mais au bout d'un moment, ils vont fatiguer. Un peu comme si tu avais littéralement un caillou dans la chaussure. Toutes les contraintes, elles vont se répartir sur les articulations au-dessus. Le genou, la hanche, ça remonte. Mais tu fais ça sur 3 ou 4 km. Avec une petite douleur et ton corps s'adapte. Tu le fais sur 40, 50,
avec
60
des appuis instables.
Avec des appuis instables. Et c'est là où finalement tu comprends à quel point c'est de la très haute ingénierie, ce qu'on peut voir dans le haut niveau, de pouvoir jongler avec tous ces paramètres. Tu as des paramètres physiques, tu as des paramètres de fatigue, tu as des paramètres de fatigue cognitive. Donc c'est ta compréhension, ton écoute, les sensations dans ton corps et tout ça, ton carburant, ce que tu mets dans ton estomac est absolument indispensable pour faire fonctionner tout ça. Et donc quelque part, ce que je trouve intéressant dans la récup, c'est qu'on pourrait faire un focus uniquement sur les sensations de récup après une course, mais moi je vois plutôt qu'est-ce qui s'est passé pendant toute l'année de ta prépa, qu'est-ce que ton corps t'a raconté, qu'est-ce que t'as mis comme carburant dans ton corps. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant quand on a ce regard-là de les écouter, parce que ça permet de comprendre tout ce qui se joue dans leur tête. Et je vais mettre une dernière bille, parce que j'en parlais avec un coach ce matin, c'est de réussir encore plus quand t'es athlète d'enlever tout ça de ta charge mentale pendant que tu cours, parce que si tu penses à tout ça, ça te crame énormément d'énergie, beaucoup de fatigue mentale. Et donc, je ne sais pas vraiment comment vous faites pour automatiser tout ça, pour que ça ne devienne même plus un poids mental.
Les petites douleurs parasites, des fois, elles sont... Quand tu as une petite tension, si tu fais que penser à ça, tu deviens fou pendant la course. Il faut réussir à se la sortir.
Ouais, c'est... Cool.
T'as réussi, là, sur le...
Le but, déjà, c'est de prendre le départ avec zéro douleur. Ouais. Déjà, c'est pas gagné quand t'enchaînes les courses et les entraînements et que t'as des petits pépins. Donc déjà, quand tu prends le départ avec une micro-douleur et que t'es parasité par ça, ouais, c'est dur parce que déjà, en soi, la course, elle est très dure. Donc si, en plus, tu te rajoutes des difficultés... ouais, c'est pour ça que là, il faut que j'arrive à résoudre ce truc avant la diac, parce que hors de question que je prenne le départ avec.
On va te trouver une table et puis
on va
te les envoyer.
Mais alors, justement, Major, si on a un ultra athlète qui arrive dans ton cabinet et qui dit ok, j'ai les jambes complètement explosées, quel genre de protocole tu mets en place pour trouver la cause et ensuite adapter un protocole de récupération?
Alors, ça va paraître assez particulier. Je suis désolé si je ne réponds pas immédiatement à ta question, mais je vais d'abord beaucoup l'écouter. Les ultra-athlètes, c'est d'abord lui et son ressenti. C'est vraiment sa façon dont il va conduire son véhicule. Et après, à partir de comment il construit son véhicule, conduit son véhicule, je vais lui proposer un protocole. Parce que nous, de notre côté, on a des grandes recos. Je vais faire un focus spécifique sur la nutrition. Nos structures musculaires, cartilagineuses, osseuses, comme je vous l'avais dit, elles ont besoin de carburant pour se construire et pour se reconstruire. Quand tu as un volume d'entraînement et que tu t'y tiens, eh bien, tu as besoin d'un équilibre. Je vais le faire méga, méga simple, mais lorsque tu vas... Ce n'est pas tout à fait vrai, donc je suis désolé pour
la vulgarisation,
mais c'est pratique pour le comprendre. Quand tu vas t'entraîner, tu vas, entre guillemets, un peu détruire ou micro-détruire. En vrai, c'est plutôt que tu vas enclencher un stimulus de reconstruction. Donc, on va enclencher un stimulus de reconstruction. Mais pour ça, il faut que dans ton corps, dans ton estomac, tu aies les nutriments qui permettent de reconstruire. Pour faire très simple, si jamais je te demande de construire un Lego Star Wars... mais que je te donne pas les pièces, bah tu me dis j'ai beau avoir le plan, je sais pas le faire. Si je te donne les pièces qui conviennent pas, tu bouffes que de la pizza et des trucs qui conviennent pas, ton Lego Star Wars il sera tout pourri. Par contre, si je te donne le kit complet, et bah là à ce moment-là ça va mieux
avec
se passer.
Les bonnes protéines,
les bons acides aminés, les bons oméga 3, et c'est là où la complémentation est intéressante. Il y a deux grands cas de figure. Soit tu t'y connais super bien en nutrition et tu regardes tes assiettes, et quand tu regardes tes assiettes, c'est comme ça que les diététiciens nutritionnistes voient leur assiette. Quand ils voient un morceau de fromage, ils savent exactement la composition d'un morceau de fromage. Quand ils voient un sandwich au poulet, ils savent exactement ce qu'il y a. Et ils se disent, là, par rapport à ma prépa, j'ai besoin de tant de protéines, j'ai besoin de tant de glucides. Je peux me permettre un petit peu de snack ou de ce genre de choses-là. Et donc, tu vas composer dans tes assiettes habituelles. Soit tu te dis, dans mon assiette habituelle, j'ai pas le temps, j'ai pas l'occasion, mentalement, c'est trop compliqué de tout penser. Et je vais faire comme Aurélien l'a dit, comme moi je le fais, je pense que c'est toi aussi si tu le fais. Je vais prendre des compléments. Pour compléter ce que j'ai pas dans mon assiette en général. Et c'est là où tu vas créer ton stock de ce que tu as dans ton organisme qui va être capable de régénérer après tes séances d'entraînement.
Fascinant.
Très, très intéressant.
J'essaie de faire au plus court.
On a tout compris.
Moi, j'ai tout compris.
Le Lego.
Et donc, dans les pièces des Lego pour les sportifs, et je vais finir là-dessus, en effet, et donc tous les trois, on bosse avec NutriPure, il y a des gammes déjà toutes faites où sur le site, vous avez exactement ce qu'il vous faut en fonction de vos besoins, en fonction de votre sport, pour pouvoir composer le pôle de ce qu'il vous faut. Globalement, ce qu'il vous faut pour les sportifs, c'est quand même un stock de protéines important qu'on peut retrouver dans la whey. C'est aussi, moi, ce que je recommande pas mal, c'est la créatine, parce que la créatine a un bénéfice sur le muscle, sur la fatigue et aussi sur la fatigue cognitive qu'on a évoquée en début de podcast.
Qui est très important. Donc, être en carence, en quelque sorte, c'est un peu saboté pendant la compétition.
Alors, je suis un éternel optimiste et je ne suis pas fan des mots carence, parce que ça pourrait impliquer que quelqu'un qui, par exemple, ne s'est jamais complémenté, qui n'a jamais eu de douleur, qui s'est entraîné pendant 30 ans et n'a aucun problème, puisse se dire « Merde, je suis en carence parce que Major, il a dit que... »
Non, ce n'est pas ça l'idée. Mais imaginons qu'on fasse une prise de sang et qu'on ait...
Il faut faire une prise de sang qui
est un peu plus en dessous de la moyenne. Là, pour le coup, ça vaut le coup de se complémenter.
Je ne saurais pas te répondre là-dessus si ça ressort aussi au niveau des prises de sang. J'ai pas les connaissances là-dessus. Ce que je vais plutôt recentrer, c'est plus que ce qu'on peut retrouver au niveau des prises de sang, c'est au niveau de l'état général. Si à chaque fois que tu fais tes entraînements, t'accumules de la fatigue, tu sens que c'est difficile pour toi de sortir de ton lit de matin, tu sens que t'as pas ta joie de vivre habituelle, t'es plus irritable, t'as des problèmes de brouillard mental, t'as des problèmes de rétention d'informations, t'as du mal à t'orienter, quand t'es en course de 8 km avant l'arrivée, tu commences à te perdre, tu vois, il y a des signes que ton corps t'envoie qui te disent...
J'ai vu un balisage.
Non mais tu vois, c'est dire si elle a eu la présence d'esprit de regarder sa montre et ainsi de suite, donc c'est pas que ça, mais c'est de comprendre que quand t'es proche de la réserve, c'est là où ton véhicule il peut commencer à déconner et c'est là où ça devient intéressant. Maintenant, c'est un univers qui est hyper vaste, qui peut parfois être complexe pour les néophytes.
Bah, c'est ça, c'est pour les débutants.
Et c'est pour les débutants.
Pour apprendre à se connaître,
c'est bien de se faire accompagner par des professionnels là-dessus. Ouais.
J'ai noté quelques habitudes post-compétition et vous me dites, selon votre expérience, si c'est une bonne ou mauvaise idée. Le débat est ouvert. Il n'y a pas que du vrai, il y a pas que du faux et que du vrai. Un bain glacé après un ultra trail, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, Cici?
Alors moi, je déteste le froid.
Pareil.
Tu me feras pas faire la cryo, etc. Mais ouais, mettre tes jambes dans une rivière un peu froide, ça fait toujours du bien. Tu sais, ça t'enlève un peu la douleur, la sensation de douleur en tout cas.
La sensation,
T'as l'impression d'avoir les jambes plus légères. J'aime beaucoup, mais pour moi, il ne faut pas que ce soit trop froid quand même.
Major, tu parlais des micro-liaisons pendant la compétition, en tout cas un processus de récupération musculaire. Alors un massage juste après une compétition, c'est une bonne ou une mauvaise idée?
Moi je dirais plutôt mauvaise idée si c'est un massage profond, et je dirais plutôt bonne idée si c'est un massage superficiel,
des
circulatoire.
Un petit massage sympa, exactement.
Le deuxième kiné de la salle, Aurélien. Des étirements juste après une compétition?
Non, parce que en fait, si t'as, je simplifie aussi, mais si t'as les fibres cassées, tu vas tirer sur des fibres. Il y a des sensations qui peut être de bien-être parce qu'on va étirer, je dis pas de bêtises, les côtés nerveux. En fait, ça va te faire oublier que tu as mal, mais concrètement, ça va pas te faire guérir vite. Non, il faut le faire au moins. Plus tu as mal aux jambes, et plus il faut attendre derrière en général. Et voilà, si tu as fait un petit footing, tu fais 2-3 petits étirements, oui, dans ce cas-là. Mais plus tu as fait un truc long, non, ça sert à rien.
Ouais, tu te rappelles, j'avais fait un peu la différence entre la sensation de congestion et la récup vraiment. En gros, comment est-ce qu'on fait la différence? Il y en a un, c'est une sensation, l'autre, c'est un impact sur ta performance. Et donc, les étirements ont été évalués. Ça diminuerait en fonction des individus un peu la sensation de congestion, mais avec ou sans étirement, ça ne change rien à la performance. Donc, je rejoins tout à fait Aurel là-dessus.
Et avant la compétition?
Alors, pour le coup, avant la compétition, grand sujet hyper intéressant aussi. À ce jour, on proscrit plutôt les étirements passifs. Tu sais, je tends la jambe, j'étire mes ischios. Ça diminuerait, mais ce n'est pas non plus méga significatif. On parle de 5 à 6% de mémoire. Le niveau de performance, ça augmenterait légèrement le risque de blessure, notamment au niveau des ischio-jambiers ou des fibres des jumeaux, donc les mollets. Maintenant, si jamais les gens, une fois de plus, se sentent vraiment bien, c'est important pour eux de le mettre comme leur slip fétiche, je ne vais pas le bannir, mais on préfère plutôt le dynamique. Et le dynamique, bah, c'est finalement, tu vas faire des mouvements que tout le monde connaît, que j'adore, qui sont des gammes athlétiques. Probablement, aujourd'hui, c'est ceux que je recommanderais le plus pour le travail d'économie du pied, pour le travail proprioceptif, pour l'échauffement cardiovasculaire.
Des montées de genoux,
des talons-fesses. Bah,
des jambes tendues.
Je pense que nos deux athlètes seraient meilleurs que moi pour décrire un peu leur protocole. Et encore, c'est très individu dépendant. Mais
bien sûr.
Mais ouais, je recommande plutôt ça.
Et après, tout ce qui est yoga, on parle d'étirement pas forcément bon avant, mais moi je vois plus en termes de relaxation, tu sais, un peu du yoga.
Un peu de pilates,
ouais, voilà, où tu tires pas trop, mais tu te mets dans une ambiance un peu détente.
Pour travailler un peu de mobilité, gagner.
Ouais, voilà, c'est ça.
Et on a pas mal de vue mentale, ouais.
En amont.
Faire une bonne marche le lendemain de la compétition, alors au niveau de la distance, c'est à l'extérieur, on parle de montagne, on parle de ville, on parle de marcher une demi-heure, 40 minutes en fonction de ses habitudes. C'est une bonne idée après une compétition?
Ouais, carrément. Pour moi, de toute façon, être immobile, c'est pas bon. Hein, donc, mobiliser, être en activité, resolliciter un peu tout, même au niveau cellulaire, refaire tout fonctionner, c'est très très bon. Donc effectivement, faut rester sur une marche douce, faut aussi suivre un peu ses douleurs et pas forcément faire du gros dénivelé. Mais moi, je suis vraiment pour la marche après, ou en tout cas être en activité.
En activité. Ouais. Mais ça peut être aussi un sport porté, le vélo, la natation.
En fait, ce qu'on veut, c'est une activité cardiovasculaire. Mmh, ce que j'aime bien là-dessus, c'est l'image de la rivière. En fait, tu veux pas une eau stagnante après une forte activité sportive parce que ça peut entretenir une micro-inflammation locale et les douleurs. Tandis que si jamais tu vas remettre un peu d'activité, bah, faire circuler ton eau, faire circuler tes liquides, favoriser la régénération cellulaire, ne serait-ce que par le drainage et par la pompe cardiaque qui fait son travail, bah, ça permet à la fois de diminuer les perceptions de fatigue et de favoriser les échanges.
Et pour ce qu'il en est de la course à pied, alors un lendemain de compétition, vous êtes des athlètes aguerris, professionnels également. Pour ce qui est du grand public, en tout cas un amateur qui viendrait courir l'UTMB, la CCC, plus ou moins proscrit ou pas ?
Non, je dirais pas proscrit, mais ça va dépendre énormément de l'intensité. Je pense que quelque chose qui pourrait se faire vraiment en EF très très faible, à 10-15% de son intensité, sur des petites sorties, entre 12 et 20 minutes, pour moi ça me semble être pertinent. Je pense que ça reste aussi très individu dépendant. Il ne faut pas oublier l'importance de la fatigue cognitive. Ce que je trouve assez intéressant, parce que là pour le coup je parle plus pour les amateurs parce que je l'ai ressenti, je vous ai parlé de l'euphorie, c'est ce que j'ai eu par exemple après le marathon de New York, où moi vraiment pendant 10 jours, mais j'étais sur un nuage, je planais complet, j'avais l'impression d'être shooté.
C'est l'effet américain, ça.
Ouais. Après, le marathon de Paris, 2h09, t'étais un peu pareil.
Oui, ouais. Oui, oui. La grande euphorie. Ah, j'étais inarrêtable, ouais. J'étais sur mon nuage.
Et par contre, ça m'est déjà arrivé d'avoir vraiment l'effet quasiment inverse, quasi des sensations quasi semi-dépressives, hein, où vraiment tu bois du noir, t'as envie de rien, t'es fatigué. Et bien là, ça fait sens justement de remettre un peu le corps en mouvement pour, je ne saurais pas rentrer dans les biomécanismes exacts, mais je pense pour rééquilibrer le dosage hormonal des hormones du cerveau et du bien-être.
Oui, c'est ça, resécréter ces endorphines. Ouais. Finalement que t'as tout mis en sommeil.
Et réguler le cortisol, je pense qu'il doit avoir un lien, mais je pense qu'un biochimiste serait plus à même pour répondre à ces questions. Ouais.
On invitera un biochimiste.
Exactement. Ouais. Johan, toi, t'es fan des pistolets massage avant, après, compète ?
Au-delà de la zone périanale, on essaie de rester sérieux.
C'est important de le préciser. Non, je suis pas fan de ça. Je préfère le rouleau de massage parce que je peux modérer l'intensité du truc. Tu vois, quand tu arrives sur une zone avec le rouleau ou que tu veux vraiment appuyer sur une zone un peu sensible, quand tu as les mollets un peu chargés ou les quadris ou les ischios. Donc, je préfère largement le rouleau pour ce côté-là que taper vraiment sur un endroit qui est un peu abîmé ou sur des courbatures ou autre. Sachant qu'il y a, il y a deux ou trois intensités sur les pistolets. Les têtes sont quand même assez dures. Donc, non, moi, je privilégie le rouleau. Mais ça, c'est plus après, moi, mon ressenti perso. Après, je ne sais pas ce que les pros vont en dire. Mais...
Ouais, pareil. Je ne suis pas fan du pistolet. En plus, j'en ai un chez moi. On m'a donné un, mais non, pas fan du tout. Je préfère le rouleau. Ça permet, comme tu l'as dit, de gérer toi ta pression dessus.
C'est ça, ce que j'aime, ouais.
Ouais, tu fais zone plus facilement. Non, c'est quand même plus agréable que le pistolet, je trouve.
Si tu veux y aller, moi j'ai une réponse. Pistolet non plus. Ouais. Non, moi je trouve ça un peu violent comme.
Ça peut faire mal. Hein.
Ouais, c'est ça. Ouais, moi je suis plus auto-massage. J'utilise pas trop de rouleaux et tout, mais l'auto-massage ça fonctionne bien aussi.
Moi pour ma part, j'ai changé d'avis sur les pistolets. C'est arrivé sur le marché il y a quasiment maintenant une quinzaine d'années. En effet, les premiers tapaient fort et on jouait beaucoup sur la sensation, justement un peu cette douleur qui fait du mal et qui fait du bien. Aujourd'hui, c'est un phénomène qu'on commence un peu à mieux à comprendre, cette douleur qui fait du mal et qui fait du bien à la fois. Et c'est quelque chose sur lequel on est beaucoup revenu et ça pourrait inclure justement les massages très profonds. Une fois de plus, je sais que je suis redondant là-dessus, mais c'est très individu dépendant. Mais je vais vous raconter une petite histoire. Si jamais, quand on vous fait des massages profonds, vous utilisez des pistolets de massage et que vous avez cette sensation de douleur qui vous fait du bien et qui vous fait du mal, posez-vous toujours la question, à 24 heures et 48 heures, comment vous vous sentez ?
D'accord.
Certains d'entre vous vont se sentir vraiment mieux. Et c'est peut-être qu'à ce moment-là, ce qui vous faisait mal, c'était peut-être plutôt le tissu musculaire congestionné, un peu plus sensible et qui, en effet, répondait bien à une stimulation mécanique pour se détendre. Si à l'inverse, au bout de 24 à 48 heures, vous avez plutôt une augmentation des perceptions douloureuses, à ce moment-là, ce qui fait du mal et ce qui fait du bien, c'est quand on a deux informations, à mon sens, l'une du muscle, l'autre du nerf. Les deux sont extrêmement liés. Quand vous regardez une entrecôte et que vous savez, cette espèce de truc blanc qui passe entre les deux, difficile à couper, c'est le nerf. Donc les deux sont étroitement liés. Et peut-être que ce qui fait du bien, c'est plutôt le muscle. Ce qui fait du mal, c'est plutôt le nerf. Et quand on va venir irriter un nerf, c'est rarement positif derrière. Et la réponse du nerf, elle est rarement uniquement immédiate. elle peut avoir un côté, ça me fait du bien sur une heure, et ça me fait moins du bien à 24-48 heures. Donc posez-vous toujours cette question. Je sais que c'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. Est-ce que ce que j'ai fait, ça m'a fait du bien de manière durable, ou est-ce que ça a augmenté mes douleurs? Et si ça a augmenté votre douleur, vous êtes plutôt des individus comme moi, où je vous invite à ne pas trop le faire.
Ok. Non, non, c'est intéressant parce que c'est vrai que bah, pour être allé au Kenya, Sylvain aussi, on connaît les massages kenyans où ils appuient, mais vraiment comme des... C'est des trigger points pendant une heure et demie sur les muscles. Ça, c'est vraiment désagréable. Et tu as cette sensation d'être hyper contracté sur la table, de pas du tout être relâché et tout. Et c'est vrai que la difficulté, c'est de savoir si ça te fait du bien ou pas. Et ça, c'est effectivement, il n'y a que dans les jours d'après que tu peux déterminer si...
Et comme dans le sport, on a quand même encore beaucoup cette culture du no pain, no gain, qu'on veuille ou non. Oui, on est tous le fruit de cette culture-là. Ça inclut aussi bah, une partie de certains des outils de récup. Et donc, je vous invite à l'échelle de l'individu à vous poser cette question-là.
Alors justement, comment on différencie courbature et douleur?
Ah, ça c'est très difficile, en particulier pour les débutants. Ouais. Je crois que si jamais on leur pose la question à vous, ils sauront faire différencier. Pourtant, c'est difficile de mettre des mots dessus. L'exemple le plus simple que je pourrais vous donner, c'est si je te donne une orange, si je te donne un citron, et si tu dois me mettre des mots sur la différence du goût que tu as, difficile à faire. Pourtant, une fois que tu l'as dans le palais, très simple à faire. C'est un peu pareil. Je crois que c'est l'expérience qui permet de faire la différence entre la bonne douleur et la mauvaise douleur. Si je dois essayer de mettre des mots pour que les gens se guident, je dirais une douleur qui serait en dessous de 3 à 4 sur 10, ce serait plutôt de la bonne douleur. Une douleur au-delà de 4, 5 sur 10, posez-vous la question. La deuxième, c'est depuis combien de temps elle est là? Un truc en dessous de 3, 4 sur 10 qui dure moins de 48 heures, c'est que ton corps il est capable de le tolérer. Un truc qui est au-delà de 4, 5 sur 10 qui dure plus de 48 heures, à ce moment-là, on est plutôt sur de la mauvaise douleur.
Et là, il faut faire attention.
Et là, il faut faire attention. Très probablement que tu as voulu faire trop vite, trop fort, trop longtemps sur un corps qui n'était pas entraîné à faire aussi vite, aussi fort, aussi longtemps. Donc, tu as vu, c'est assez intéressant. Ouais, maintenant, on peut rajouter des trucs sur de la douleur qui est logique et localisée. Exemple. J'ai fait une séance de kinomètre vertical. J'ai senti là-dessus que j'avais surtout une chaîne postérieure qui travaillait beaucoup, fessiers, ischio-mollets. C'est plutôt normal que pendant 4-5 jours, j'ai une grosse sensation de fatigue ischio-mollets. Qu'est-ce que je vais faire? Dans ma prépa, je vais être obligé d'adapter, diminuer le volume sur ma prépa. Si par exemple, j'avais un fractionné 3 ou 4 jours après qui était prévu dans ma prépa et que je dois un peu taper dedans, c'est sûr que mon fractionné il va inclure de la chaîne post et peut-être que ce n'est pas l'idée du siècle. Et tu as vu que quand je raconte tout ça, je suis sûr que dans les auditeurs, il y en a qui vont faire le lien et dire « Putain, purée, c'est comme ça que je me suis fait
j'avais
cette
lésion mal au mollet, j'ai voulu faire des 200 mètres à 100% de même alors que j'avais les mollets défoncés et que j'étais sur une piste trempée et que j'ai voulu mettre les légères. »
Voilà, donc ça, c'est pour la chaîne post. Tu peux avoir le même sur la chaîne hante. Je me suis fait une petite entorse de cheville et je n'ai pas eu trop le temps de récupérer. J'ai continué, puis j'ai fait un entraînement sur terrain boueux avec un grand dénive et puis je me retrouve avec une grosse douleur fossiliaque. Donc, vous prenez vos parties génitales, vous vous décalez sur le côté, c'est là où il y a justement le muscle iliaque et le muscle psoas qui passe, qui est fléchisseur de hanche. Et quand vous avez perdu les releveurs, donc ce qui permet de remonter le pied, vous allez compenser par la hanche. Et c'est là, comme ça qu'il y a des gens qui se déclenchent des douleurs de hanche à cause d'antécédents de cheville. C'est hyper intéressant quand tu commences à regarder ça. C'était quoi déjà ta question?
Le prolongement de tout ça, c'est que le renforcement musculaire aussi
exactement
fait partie de la récupération.
Exactement. Et donc, le meilleur moyen à ce jour, au-delà de la triade qu'on a évoquée, c'est justement d'adapter le volume d'entraînement en fonction de vos sensations et d'avoir du renforcement musculaire en fonction de vos schémas, de vos antécédents, de votre type de course. Je le rappelle juste parce que je trouve qu'aujourd'hui, et probablement que j'ai une part de responsabilité où je suis méga pro renforcement musculaire, dites-vous que 98% des blessures en course à pied et 98% des traitements des blessures en course à pied passent par le volume de course. Et 2% et ou de la blessure et ou du traitement de la blessure passent par le renfo. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de patients ou des gens sur les réseaux sociaux qui, face à une blessure, gardent exactement le même volume d'entraînement et se rajoutent du renfo. Et en fait, ils explosent leur volume d'entraînement, le volume de sollicitation. Donc, l'idée, c'est de vous faire accompagner pour adapter votre volume d'entraînement en cas de blessure, avoir les bonnes stratégies d'activation musculaire en plus, qui sont rarement fatigantes, mais qui sont des bons compléments pour les bonnes activations neuromusculaires.
Moi, je le vois personnellement parce que j'ai une sensibilité au niveau du grand fessier. Okay. Et quand je sèche le renforcement musculaire pendant 3 semaines, 1 mois, et que je me mets une séance de vitesse, boum, je le sens. Et là, c'est un bon mémoire, une bonne figure de rappel pour me dire, allez, Amine, va falloir aller à la salle parce que là, pour le coup, tes grands fessiers, ils assument pas là.
C'est drôle que ce soit grand fessier. J'imagine que tu as fait de l'athlétisme plus jeune.
Exactement.
Ouais, et plutôt sur des sports de vitesse, sur
exactement,
de la courte distance.
Du 800, du 800.
Ouais, c'est ça. Parce que le grand fessier, c'est assez typique des distances courses vitesse.
Et il allait vite, beau, hein. C'est il allait vite, cet Amine.
Je vais me faire ausculter par.
Ouais. Non, non, mais là, il a déjà deux.
Il va analyser mon
deux
corps.
Patients.
Il va me révéler tous mes traumas. Il va savoir où est-ce que j'ai mis une fracture de cheville et de poignet. Non, mais ça va être génial. J'ai hâte d'aller à ton cabinet. Si vous aviez un conseil à donner pour accentuer la récupération, est-ce que la priorité numéro un après un ultra, c'est le repos ou justement la marche active et ce qu'on disait tout à l'heure, rester active et accentuer ce processus de récupération.
Allez, moi aujourd'hui, je vais miser plutôt sur la détente mentale, profiter.
Allez,
voilà. Du coup, l'apéro, les copains, le débrief, les rencontres. Pour moi, je mets mon gros billet là-dessus. Franchement, on vit une belle époque de merde, donc si vous pouvez vous éclater par le sport, faites-le et prenez tout ce qu'il y a à prendre.
Ouais, après, faut pas le faire en culpabilisant.
Voilà, c'est ça.
Aussi.
Ouais.
Parce que t'en as qui vont le faire, mais qui vont être un peu... en se disant ouais mais je c'est pas bien etc, donc faut faire aussi ce qu'on ressent bon de faire par rapport à sa façon de voir les choses quoi, mais le mieux c'est de mixer un peu tout, c'est le juste équilibre, donc ouais, c'est toujours. Aller à l'apéro en marchant par exemple.
Excellent. À 5h du matin, l'apéro,
à 5h voilà, du matin, rentrer en marchant.
Ouais, et puis comme disait ça dépend aussi de quel est l'objectif derrière. Ouais. C'est sûr que si c'est l'UTMB et derrière la saison elle est finie, il y a plus de course jusqu'à l'an prochain. Voilà, oui, il faut débrancher encore plus. Après, si c'est plus une petite course de prépa et qu'il y en a une autre dans un mois et demi, ben oui, débrancher 2-3 jours, mais quand même, voilà, rester concentré quand même sur la récup.
Et que dit mon consultant favori en termes
moi,
de...
je suis d'accord avec Major, hein, la récupération mentale est importante parce que tu as beau tout mettre en place sur ta compétition, tes entraînements et tout, si tu n'as pas le mental et l'envie de repartir t'entraîner ou de t'entraîner tous les jours et de faire tout ce qu'on a parlé pendant une heure, bah voilà, c'est ta mentalité, c'est ton envie qui doit te guider, et si elle est un peu absente, ça sert à rien.
Ouais. Tout bien récupérer, ça permet aussi de refaire le stock d'énergie et de boost mental pour repartir un peu plus fort ensuite pour une nouvelle préparation.
Exactement.
Et de tenir sur le long terme, parce que c'est ça qu'on veut, tu vois. C'est le sportif qui est capable d'avoir son sport le plus longtemps possible, de s'éclater dans les bons comme dans les mauvais moments. Et justement, la récup, c'est à mon sens le secret de la longévité dans le sport. Et c'est peut-être un truc aussi que j'ai changé. J'ai plus le même discours quand on parle de récup. J'approche des 40 ans.
Que quand
on avait 30 ans. Ouais. Quand t'as 30 ans, on parle de récup. La seule chose que tu vois, à la limite, c'est l'impact sur ta performance. À partir de 40, tu commences à te dire
sur le reste.
Ouais, sur le plaisir, sur
après,
le reste, à côté.
Sur l'arthrose, après, sur il faut bouger pour être en bonne santé.
Tu nous fais peur.
En fait, parce que j'ai parlé des 40 ans, j'ai fait une pause, je me suis retourné sur Johan pour voir s'il allait saisir l'hameçon. Ouais, il est passé, mais complètement à travers. Il ne se sent pas concerné.
Il n'a pas accepté son âge encore.
Non, j'ai pas de cheveux blancs.
Quelle année, Johan?
85. Ouais, 41.
Le déni complet. Il ne se sentait pas concerné.
Non. J'ai fait un âge biologique à 34 ans. J'ai pas le temps. Donc moi, je regarde l'âge de la montre qui me dit 31 c'était, physiquement.
C'était
et...
quoi? C'était dans Mickey Magazine.
Chez Enduro, notamment. C'est le laboratoire de performance. De Norme 3, quel âge sur Enduro? 30.
Ah oui, pareil. Il est beaucoup plus jeune. On est beaucoup plus jeune. On est en forme. Mais ça, c'est les sportifs. On est tous plus jeunes qu'on y paraît.
Et bah bravo à vous, merci à tous pour cet épisode et sur ces précieux conseils sur la récupération. Je rappelle que vous pourrez retrouver ce podcast sur la chaîne YouTube RMC Running. N'hésitez pas à vous abonner, on vous prépare plein de surprises pour cette deuxième partie de saison, notamment avec un beau projet pour Johan Durand.
Exactement, et on aura besoin de récup pendant tout au long de la prépa.
Tu seras très, m'appelles très quand tu veux.
Parfait.
On remercie également NutriPure, partenaire de cet épisode, et pour le coup vous avez un code promo RMC10 pour bien récupérer. Et pour finir, toujours le même conseil: quand vous courez, souriez et reposez-vous après, ça aide à respirer.